Voilà, je suis heureux de pouvoir adresser cette parole ce matin, ce commentaire de la parole de Dieu. Et nous allons poursuivre dans la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, sa première épître. Nous avons entamé cette série sur cette lettre avec notre frère M. Henri Blocher. Il y a 2 semaines, et nous poursuivons ce matin avec la lecture des versets 10 à 12 du premier chapitre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12, je lis dans la version du Semeur. Il était question jusque-là du salut, de l'incroyable salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Et voilà ce qu'écrit Pierre. Il dit « Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. » Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Et les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Un texte qui est dense, et nous allons y revenir plus en détail maintenant. Mais j'aimerais faire quelques mots d'introduction avant de commenter les quelques versets que nous avons lus. Nous vivons dans une époque difficile, où il devient de plus en plus difficile d'afficher notre foi publiquement et de vivre les valeurs qui découlent de l'Évangile, même si nous sommes dans un pays où nous avons le privilège d'avoir la liberté de religion et la liberté de culte. Mais il y a 2000 ans, à l'époque où Pierre écrit, les chrétiens d'Asie mineure à qui il s'adresse, eh bien, sont également dans une époque qui est troublée, qui est difficile. Ils sont ostracisés. Ils étaient mis au ban de la société, parfois en raison de leur foi en Jésus-Christ. Il arrivait qu'ils soient l'objet de calomnies, l'objet de propos malveillants. Les événements dans lesquels ils se trouvaient, l'ostracisme auquel ils faisaient face, pouvaient les amener à être en difficulté sur le plan de leurs relations, que ce soit sur leur lieu de travail, que ce soit dans les relations familiales. Leur intégrité était parfois menacée, même leur honneur, jusqu'au sein même de la communauté chrétienne, et ils étaient sous pression. Comme aujourd'hui, nous pouvons aussi parfois nous retrouver sous pression à cause de notre foi. Et la question qui se posait pour ces chrétiens, c'était de savoir, mais comment est-il possible de maintenir un témoignage chrétien vivant? Comment est-il possible de ne pas se laisser décourager en étant dans un environnement qui est hostile? Pierre, qui est cet apôtre intrépide que l'on connaît, Pierre parle à ses croyants, leur écrit et cherche à les encourager. Il veut les consoler, il veut leur offrir de l'espoir. Et il leur dit, mais souvenez-vous qui vous êtes. Fondamentalement, qui êtes-vous? Votre identité est en Christ. Vous n'appartenez pas à ce monde hostile à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Dieu vous a choisi. Il veut que vous fassiez partie de son peuple. Ici-bas, vous n'êtes que des gens de passage, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Dieu a un plan pour vous. Il vous a consacré à son service. Il vous a purifié. Et votre vocation désormais, c'est d'obéir à Dieu. Pierre explique que les chrétiens vivent comme des étrangers dans ce monde. Ils ne peuvent pas se reconnaître dans les valeurs du monde. Ils sont en décalage. Leur identité en Christ fondamentalement provoque un décalage avec le monde dans lequel ils sont. Et cela peut rendre leurs relations compliquées avec la société dans laquelle ils se trouvent. Les chrétiens ne sont pas toujours compris parce qu'ils vivent à contre-courant, ils vivent de manière contre-culturelle. Et Pierre invite ses lecteurs et nous avec à considérer qu'il est normal de devoir parfois souffrir en raison de notre foi parce que nous vivons à contre-courant de ce monde. Mais quand nous souffrons, nous pourrions être découragés. Et donc la question se pose de savoir comment tenir, comment rester ferme. Et la réponse de Pierre, c'est de dire, regardez tout ce que vous avez reçu. Regardez le magnifique salut dont vous êtes l'objet. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices à appartenir à Christ. Et cela justifie bien toutes les souffrances que vous pouvez endurer présentement. Paul va énumérer tous ces bénéfices dans les versets 3 à 9 de son épître. Il dit, mais bien sûr, à cause de votre salut précisément, parce que Dieu vous a choisi, vous souffrez, mais cela en vaut la peine. Au verset 3 de sa lettre, Pierre fait une prière. Une longue prière de louange, de reconnaissance. Il remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour notre salut. Et il dit, mais Dieu vous a fait naître à une nouvelle vie. En fait, la manière dont Dieu vous sauve, c'est par le fait de naître de nouveau. Quand vous réfléchissez un moment à ce qu'implique une naissance, par vos parents biologiques, vous avez reçu une identité. Vous avez reçu une identité ethnique, vous avez reçu une nationalité, un rang social, vous avez reçu un certain potentiel. Mais Dieu veut nous faire naître à une nouvelle vie et donc veut nous donner une autre identité. L'identité qui est celle de fils et de filles de Dieu. Dieu est notre Père et il nous communique une nouvelle identité, l'identité de fils et de filles du Père. Nous ne sommes plus les citoyens de ce monde, nous recevons une nouvelle citoyenneté, nous sommes citoyens du ciel. Et cela, ça va impacter nos relations, cela va changer nos relations avec la société, ça va impacter notre caractère. Dieu veut nous faire naître à une naissance nouvelle. Pierre explique que le salut, c'est aussi recevoir l'espérance d'un changement présent et d'un changement à venir. Dieu va renouveler toute chose. Il y aura un salut complet, total, qui est encore à venir, qui n'est pas encore totalement là. Et ce salut, nous allons le recevoir quand Jésus reviendra. Vous savez, quand on commence à contempler le salut, à voir tout ce que Dieu a fait pour nous, notre cœur bondit de joie. On ne peut être que reconnaissant. On se dit, mais c'est prodigieux tout ce que Dieu a fait pour nous. Et Pierre s'émerveille devant ce salut. Pierre s'émerveille de ce que nous avons été élus, de ce que nous avons été purifiés par le sang du Christ. Pierre s'émerveille de ce que nous avons été sanctifiés. Il s'émerveille d'un salut qui n'est pas nouveau. Il s'adresse à des gens qui connaissent l'Ancien Testament et qui connaissent déjà toutes ces choses-là, le salut qui est là en Dieu, en Jésus-Christ. C'est un salut qui était annoncé déjà bien avant. Il n'y a pas un nouveau salut qui vient avec Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est que l'accomplissement du salut qui était déjà annoncé et présenté dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas une ancienne alliance qui disparaîtrait pour laisser place à une nouvelle qui serait complètement différente, sans aucun rapport avec l'ancienne. Non, Dieu nous présente un salut au travers d'alliances qu'il a faites, d'une ancienne alliance, d'une nouvelle alliance en Jésus, mais qui est le même salut. On retrouve du vocabulaire identique dans ces deux alliances. La notion d'élection est déjà présente. La notion de sanctification est déjà présente dans l'ancienne alliance. La notion de l'œuvre de l'Esprit est déjà présente dans l'Ancienne Alliance. Mais Pierre regarde comment ce salut se présentait dans l'Ancienne Alliance. Il nous dit, mais ce qui est transformé, en fait, le sang, par exemple, qui devait être versé pour nous délivrer de nos fautes dans l'Ancien Testament, ce sang des bêtes, désormais, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de nos péchés. Mais le Dieu qui se présente à nous, qui nous offre le salut, c'est le même Dieu que celui de l'Ancien Testament. Il y a une continuité dans l'histoire du salut. Et c'est ce qu'il va expliquer dans les versets 10 à 12 que nous avons lus tout à l'heure et que nous allons méditer maintenant. Déjà dans l'Ancienne Alliance, ce salut en Jésus-Christ était recherché. On se disait, mais comment Dieu peut-il nous sauver? Pierre écrit, verset 10, que ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes. Les prophètes qui ont cherché le salut, qui se sont dit, mais comment être sauvés de nos détresses présentes, comment être sauvés de notre péché, ces prophètes ont investigué, ont fait des recherches minutieuses. Il est question ici non pas seulement des grands prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie. Il est vraisemblablement question ici de tous ceux qui ont parlé au nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est même question de tous les écrits de l'Ancien Testament, la Torah, les prophètes, les écrits. Tout l'Ancien Testament nous parle déjà du salut à venir et s'inquiète de savoir comment cela va se passer. Tous les croyants de l'Ancien Testament se sont interrogés sur l'œuvre de salut de Dieu. Ils ont compris progressivement différentes choses. Abraham a compris qu'il fallait avoir la foi pour être sauvé. Avec Moïse, les croyants ont compris qu'il fallait obéir à Dieu pour être sauvé. Avec David, ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait un roi à qui se soumettre pour vivre avec dans la conformité à Dieu. Avec Jérémie, ils ont compris qu'il fallait l'intervention de l'Esprit de Dieu pour entrer dans une vie nouvelle. Avec Ésaïe, ils ont compris que Dieu allait faire advenir un monde nouveau. Oui, les prophètes ont cherché, ils ont investigué. Et le verset 10b nous dit, ils ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Tous ces prophètes, tout l'Ancien Testament, si vous voulez, a cherché comment Dieu allait accomplir son salut. Ils ont sondé les Écritures et ils ont compris. Parce que Dieu leur a parlé par son esprit, ils ont compris que Dieu avait un plan de sauvetage pour l'humanité. Les prophètes dont il est question ici ne sont pas des illuminés, des gens qui se laissent guider par les émotions, par du spectaculaire. Ce n'étaient pas non plus des gens qui étaient juste intéressés par une recherche historique en essayant de savoir les choses dans le passé. Non, ces prophètes dont il est question ici, c'est des gens qui aspiraient à connaître Dieu, à être en relation avec lui, à être en communion avec lui. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont cherché à comprendre le monde dans lequel ils vivaient et comment Dieu allait intervenir. Et le verset 10 nous dit qu'ils ont compris une chose essentielle. Ils ont compris que Dieu allait faire grâce. Ils ont compris que face à des gens indignes qui ne méritent nullement la bienveillance de Dieu, Dieu allait malgré tout faire grâce. Il allait intervenir pour sauver. Parce que Dieu aime ses créatures. Comment ont-ils pu se rendre observant autour d'eux. Moïse, par exemple, a été sauvé des eaux. Dieu n'a pas empêché que Moïse passe par une épreuve, mais il lui a fait grâce, il l'a sauvé. David, qui était pourchassé de la main de Saül, Saül qui cherchait à le tuer et à l'empêcher d'accéder au trône, eh bien, David est passé par beaucoup d'épreuves. Mais Dieu a fait grâce et il a permis que son projet s'accomplisse. Jérémie n'a pas été compris par ses contemporains quand il annonçait la parole du Seigneur. Il est passé par l'épreuve, on l'a même jeté au fond d'une fosse, d'une citerne. Mais Dieu lui a fait grâce. Et je pourrais multiplier les exemples de gens dans l'Ancien Testament, de croyants, qui, passant par l'épreuve, ont vu la main du Seigneur, ont vu que Dieu les délivrait, que Dieu leur faisait grâce et qu'il les sauvait, même s'ils n'étaient pas toujours dignes. Et du coup, ces prophètes ont annoncé ce message. Ézéchiel, chapitre 18, verset 30, dit « Revenez à moi, c'est Dieu qui parle, revenez à moi, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. » Le même prophète, un peu plus loin, dit « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur et l'Éternel le déclarent, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Mais ce que je désire, c'est qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ?» Vous voyez, Ézéchiel comprend que le projet de Dieu, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la perdition, mais c'est la vie. Et que le projet de Dieu implique que l'on se détourne de nos mauvaises voies et que l'on reçoive la grâce de Dieu. Malachie 3, verset 7, dit ceci, « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel. » Revenez donc à moi. Il y a un message qui appelle à revenir à Dieu sans cesse et à recevoir la grâce. Les prophètes ont cherché, ils ont compris que Dieu était un Dieu de grâce. Verset 11, je poursuis la lecture. Les prophètes cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Donc avec la sensibilité qui était la leur, grâce aussi à toutes les recherches persévérantes qui étaient les leurs, ils ont compris que ce temps du salut, ça allait être un temps particulier, qui allait se produire à un moment particulier, le kairos de Dieu, un temps que Dieu avait préparé, un temps qui était encore à venir, qui semblait bien lointain pour eux. Ce ne serait pas quelque chose qui allait s'accomplir de leur temps, mais dans un temps à venir. Ils ont compris cela parce que cela leur a été révélé par le Saint-Esprit. Les prophètes aspiraient à ce salut. Ils l'attendaient avec impatience, mais ils ont su qu'ils ne le verraient pas de leurs propres yeux. Pourtant, ils ont compris beaucoup de choses. Ils annoncent que ce salut va se produire par Jésus, par un Messie. Je poursuis verset 11b. Cet esprit du Christ était en eux et il annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. C'est l'esprit du Christ qui est dans ces prophètes. Ça peut paraître surprenant. Comment l'esprit de Jésus peut être dans les prophètes puisque Jésus n'est pas encore venu dans ce monde? Comment a-t-il pu leur parler puisqu'il n'était pas encore là? Il ne faudrait pas pour autant imaginer qu'il y a plusieurs esprits, d'un côté l'esprit de Dieu, de l'autre l'esprit du Christ. C'est bien un seul et même esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Mais par cette indication, Pierre nous montre cette continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle. L'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit du Christ, et c'est lui déjà qui parle aux prophètes de l'Ancien Testament. Et ce que dit l'Esprit, nous dit le texte, est quelque chose de fiable, de sûr, d'authentique, parce que c'est un esprit de vérité. Et voilà ce que cet esprit permet aux prophètes de découvrir, c'est que le salut passe toujours par le même schéma, d'abord des souffrances et ensuite la gloire. Le salut passe toujours par le même schéma, d'abord les souffrances et ensuite la gloire. Les prophètes l'ont découvert sans doute en observant aussi autour d'eux et en faisant leurs recherches. Joseph, par exemple, le fils de Jacob, a été vendu par ses frères. Il a ensuite été jeté dans une prison de manière complètement injuste. Il était esclave en Égypte. Et à un moment donné, Dieu le tire de là où il est pour le placer comme bras droit du Pharaon. Il l'élève, après toutes les souffrances et les injustices qu'il a connues, il l'élève à la droite du Pharaon. Et Joseph sera en charge d'un plan de nationalisation pour chercher à faire des provisions de nourriture, à même de faire en sorte que le peuple puisse tenir pendant 7 ans de famine. Et grâce à cela, eh bien, Joseph pourra sauver sa propre famille. Et le jour où il revoit ses frères qui l'ont vendu, il va leur dire que Dieu a changé leur mal en un bien. Il va voir, finalement, dans les circonstances qu'il a traversées, la main de Dieu. Et c'est prodigieux de voir qu'au travers de la souffrance, nous pouvons y voir la main de Dieu. Et que Dieu, à cause des souffrances que nous pouvons vivre, peut en faire sortir un bien et le salut. À partir de cette expérience de souffrance qu'on voit chez de nombreux témoins dans l'Ancien Testament, cette souffrance où Dieu intervient et relève à la fin, Ésaïe comprend que ça va être aussi le destin du Messie. Le Messie aussi va souffrir. Il va aussi falloir qu'il passe par de grandes souffrances pour apporter le salut et que Dieu ensuite va le délivrer et va le réhabiliter. Nous lisons ça dans Ésaïe, au chapitre 53, par exemple. Les prophètes ont compris ce schéma souffrance-gloire. Ils l'ont annoncé. Ils ont dit que c'est comme ça que le salut allait opérer. Et pour tous ceux qui souffraient à l'époque des prophètes, cela a été une grande source d'encouragement. Parce qu'ils ont compris que s'ils ne voyaient pas encore la gloire, ils pouvaient être certains que la gloire allait arriver. Parce que c'est l'Esprit Saint qui parlait par la bouche des prophètes. Ils ont su qu'après le temps de souffrance qu'ils traversaient, Dieu allait apporter son salut, qu'il allait faire grâce. Nous aussi, on n'a pas une pleine compréhension du salut. Le salut est encore à venir pleinement. Nous attendons encore ce qui nous est promis, tout comme les croyants de l'Ancien Testament. Mais nous pouvons avoir la même certitude que les croyants de l'Ancien Testament, c'est qu'après les souffrances se présentent, nous pouvons attendre la gloire à venir. Il y a là un schéma semblable. Ce schéma, il se trouve vraiment dans la personne de Jésus, qui est le Messie, le Sauveur. Jésus est passé par la croix. Il a dû aller jusqu'à la croix, être livré en sacrifice pour nous, pour obtenir notre rédemption. Et Dieu l'a délivré de la mort. Il l'a fait revenir à la vie et lui a accordé une réhabilitation complète. Il l'a placé à sa droite dans le ciel. Et Jésus aujourd'hui règne sur le monde. Il règne sur son peuple. Le schéma du salut passe par la souffrance suivie de la gloire. Et c'est le message que Pierre apporte aux croyants qui passent par des difficultés. Il leur dit, vous êtes ostracisés, vous êtes mis de côté, vous avez de la peine à vivre votre foi dans la société, Soyez patient, c'est le chemin normal pour le croyant. Ça fait partie de votre identité de chrétien. Vous devez passer par là, mais regardez, ayez foi, ayez espérance, Dieu va vous délivrer. Littéralement, le verset 11 parle des souffrances et des gloires à venir à propos, vous pouvez penser de Jésus, mais je pense que le fait de parler des gloires à venir parle de la gloire de Jésus et de la gloire des chrétiens qui sont les suiveurs de Jésus, les disciples. Nous sommes unis dans une seule et même destinée avec Jésus. Ce qui se passe pour Jésus va se passer pour nous aussi. Nous ne sommes pas plus grands que lui. Nous devrons aussi passer par des chemins parfois compliqués et difficiles à cause de notre foi. Le verset 12 nous dit ceci. « Il fut révélé aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont évangélisé sous l'action de l'Esprit-Saint qui a été envoyé du ciel. » L'Esprit-Saint a été envoyé du ciel au moment de la Pentecôte. Il était envoyé une fois et ensuite il agit de manière naturelle dans la vie des croyants sans chaque fois avoir à le redemander. Et Pierre termine en disant « Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. » Donc les prophètes ont cherché comment Dieu allait venir apporter son salut. Ils ont cherché. Ils ont compris que cela allait s'accomplir en Jésus. Et Jésus est venu. Il est allé jusqu'à la croix. Depuis lors, beaucoup de personnes se sont tournées vers Jésus et ont reçu ce salut. Les premiers croyants à qui Pierre s'adresse sont aussi venus à Jésus. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de lui pour être sauvés. Ils ont entendu le message du salut parce qu'il y a des personnes qui l'ont annoncé. Il y a eu des évangélistes parmi les croyants. Parmi les tout premiers croyants, des gens ont compris que cette bonne nouvelle ne pouvait pas être tue, qu'il fallait la dire, qu'il fallait l'annoncer. Et que sans l'annoncer, elle ne pourrait jamais se répandre. Il y a eu des annonciateurs de la bonne nouvelle, et il y a des gens qui ont reçu cette bonne nouvelle. Pierre dit, ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont évangélisé sous l'action de l'Esprit-Saint. Quand on évangélise, on n'agit pas que par notre propre pouvoir, on n'agit pas seulement avec notre pouvoir de persuasion. C'est l'Esprit-Saint qui persuade. C'est lui qui amène quelqu'un à reconnaître qu'il a besoin de Jésus dans sa vie. Il y a un travail conjoint entre l'annonciateur de la parole et le travail de l'Esprit. Pierre conclut en s'étant d'abord enthousiasmé du salut, en voyant ensuite combien tous les auteurs de l'Ancien Testament se sont attachés à comprendre ce salut, comment ce salut s'est réalisé en Jésus-Christ. Pierre conclut ce magnifique panorama en voyant que des gens adhèrent à ce salut maintenant que Christ est venu sur la terre. Et il dit, mais tout cela, les anges le regardent depuis le ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir, dit-il. Les anges sont courbés vers la terre. Ils regardent. Ils contemplent, ils sont fascinés, fascinés par le caractère bouleversant de ce qui se passe. Ils sont éblouis de voir que des gens se tournent vers Jésus. Ils sont éblouis par le fait que ce message du salut qui est proclamé bien, touche des personnes et change des vies. Ils sont tellement éblouis qu'ils ne se lassent pas de regarder et qu'ils regardent encore, ainsi que l'indique le présent du verbe. C'est une action qui continue. C'est tellement magnifique que leur désir de voir ce qui se passe n'est jamais assouvi. Ils veulent encore voir cela. La Bible mentionne à plusieurs reprises le rôle des anges dans le plan du salut. J'avais, il y a 2 semaines, une chrétienne qui m'écrivait et qui me disait, mais combien sa joie était grande d'avoir vu une de ses filles revenir à l'église, rejoindre l'église et donner sa vie enfin à Christ, une fille d'un certain âge déjà. Et elle dit ceci, mais c'est un véritable bonheur. C'est tout ce qu'un parent peut désirer pour son enfant. Cette sœur en Christ, déjà d'un certain âge, est vraiment dans le bonheur de voir que sa fille s'est tournée vers le Seigneur. C'est le même bonheur que celui des anges qui se réjouissent chaque fois que quelqu'un vient à Christ. Si vous avez eu le privilège d'amener des personnes à Christ, je pense que ça fait partie des plus grandes joies que l'on peut connaître dans l'existence, de voir que quelqu'un comprend qu'il a besoin du salut de Dieu et qu'il confie sa vie à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour nous aujourd'hui, mais la question se pose de la manière dont nous transmettons cet évangile. Est-ce que nous sommes des annonciateurs de la parole? Est-ce que nous allons permettre à d'autres d'entendre ce magnifique message du salut? Parce que si je me tais, comment les gens qui sont sans Christ entendront-ils parler de ce message? Le Seigneur m'invite à être un annonciateur de la parole, à évangéliser autour de moi, à dire l'espérance qui m'habite. Alors que nous puissions être des annonciateurs revêtus de l'autorité du Christ, laissant l'Esprit agir et faire son œuvre dans la vie de ceux à qui nous pouvons nous adresser. Et que nous ayons la joie ainsi de voir de nombreuses personnes encore rejoindre le peuple de Dieu et devenir enfants du Seigneur.